Psaume 78. La voix de Dieu au milieu des manquements d'Israël, pour sa gloire et la bénédiction de son peuple. Au psaume 77, tout en ayant conscience de la ruine d'Israël, l'âme pieuse est délivrée de la pensée terrible que Dieu a rejeté la nation à toujours, et que ses promesses et sa grâce ont pris fin. Dans le lieu saint, le fidèle apprend que, malgré les manquements d'Israël, Dieu a une voix par laquelle il assure sa propre gloire et la bénédiction de son peuple. Le psaume 78 place devant nous les manquements de la nation, depuis l'Égypte jusqu'au jour de David, et nous découvre la voix de Dieu en bénédiction. Versets 1 à 4. Le psalmiste parle avec l'autorité d'un envoyé de Dieu. Il invite le peuple à écouter le témoignage de la loi. Il va prononcer une parabole. En fait, il retrace les faits historiques. Toutefois, si c'est l'histoire de Dieu qui met en évidence les manquements du peuple de Dieu, c'est la parabole qui va enseigner la voix cachée de Dieu à ceux qui inclinent l'oreille pour écouter. Psaume 77, verset 19. Derrière les manquements et la faiblesse du peuple, ils discerneront la force de l'Éternel, ses merveilles qu'il a faites. L'histoire du peuple tournera ainsi à la louange de l'Éternel. Versets 5 à 11. Le témoignage de Dieu est ce que le peuple en a fait. Avant d'aborder l'histoire d'Israël, le psalmiste nous rappelle que Dieu a établi un témoignage. Les pères devaient le rapporter à leurs fils et ceux-ci le transmettre à leurs enfants, afin qu'ils mettent leur confiance en Dieu, qu'ils marchent dans l'obéissance et qu'ils n'oublient pas ses œuvres. Ils seraient ainsi à l'abri de l'obstination qui a caractérisé les générations précédentes dont les affections n'étaient pas affermies pour Dieu et dont l'esprit ne lui a pas été fidèle. Éphraïm, en tant que tribu type, illustre la faillite complète du peuple à répondre à ce témoignage. Bien que parfaitement équipés pour la bataille, ils ont tourné le dos le jour du combat. Ils ont désobéi à Dieu et ont oublié ses actes et ses œuvres merveilleuses. L'histoire montre que les fils ont été comme leur père. La chair n'apprend rien de ses propres manquements ou de ceux des générations qui ont précédé. Elle ne change jamais. Versets 12 à 20. Les merveilles de Dieu et ce que le peuple en a fait. Après le témoignage de Dieu, le psalmiste en vient maintenant aux merveilles de Dieu. Il passe rapidement en revue les merveilles de Dieu en Égypte, à la mer Rouge, dans le désert. La nuée, la colonne de feu et l'eau qui jaillit du rocher. Le peuple n'a retiré aucun profit du témoignage de Dieu. Quelle a été son attitude face à ces merveilles? Hélas, les fils d'Israël se sont enfoncés toujours plus dans le péché. Le témoignage rendu par leur père et les miracles opérés devant leurs yeux n'ont servi à rien. Ils ont tenté Dieu en parlant contre lui. Par un miracle, Dieu avait permis que des ruisseaux viennent abreuver leur soif, mais dans leur incrédulité, ils dirent « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Ils reconnaissent certes que Dieu avait fait un miracle pour eux, mais ils disent en quelque sorte « Il nous a donné de l'eau, pourra-t-il aussi nous donner du pain ?» Lorsqu'il n'y a pas de miracle, les hommes parlent contre Dieu et déclarent « Pourquoi n'intervient-il pas ?» Ils oublient que lorsque Dieu a opéré des miracles devant leurs yeux, ils ont parlé contre lui. Les miracles et les signes ne changent pas le cœur humain. Avec ou sans miracle, l'homme naturel est incrédule. Versets 21 à 32. Les actes gouvernementaux de Dieu en jugement sur son peuple et leurs résultats. Le peuple a refusé le témoignage de Dieu et s'est moqué de ses miracles. Dieu va alors les éprouver en les châtiant. La colère gouvernementale s'abattit sur eux parce qu'ils ne crurent pas Dieu et ne se fièrent pas en son salut. Il avait ouvert les portes des cieux et fait pleuvoir la manne, leur donnant par là le pain des puissants. Mais le peuple s'était détourné de la manne et avait convoité la chair. Verset 20. Dieu la leur envoie, en plus grande abondance que la manne. Elle tombe sur eux comme de la poussière et comme le sable des mers. Ils pouvaient la ramasser sans effort, car Dieu la fit tomber au milieu de leur camp, autour de leur demeure. Mais, loin de les amener à condamner leurs murmures, cette manifestation merveilleuse de la puissance de Dieu leur servit à satisfaire leur convoitise et attira alors sur eux les conséquences gouvernementales de leur propre folie. Les hommes d'élite d'Israël furent abattus. Hélas, le seul résultat de ce châtiment fut qu'ils péchèrent encore et ne crurent point par ses œuvres merveilleuses. Versets 33 à 42. Les voies de Dieu envers le peuple, tempérées par la grâce. Dieu avait éprouvé les fils d'Israël dans le désert, et cela avait manifesté leur ruine totale. Les versets 33 à 42 présentent les voies de Dieu envers son peuple au temps des juges. Dans ces jours, les voies gouvernementales de Dieu envers le peuple étaient mêlées avec la grâce. Les captivités successives étaient suivies par des délivrances répétées, car Dieu est miséricordieux. Ils se souvenaient de la faiblesse de son peuple, qu'ils étaient chers, un souffle qui passe et ne revient pas. Mais, comme dans le désert ils avaient provoqué et irrité Dieu, ils recommencèrent et tentèrent Dieu et affligèrent le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa main au jour où il les avait délivrés de l'oppresseur. Versets 43 à 55. Les voies de Dieu qui s'exécutent malgré la ruine de l'homme. Ces épreuves successives avaient prouvé la méchanceté absolue de la chair. Néanmoins, le psalmiste montre que Dieu accomplit ses propos pour la gloire de son nom et pour la bénédiction de son peuple. Ainsi, pour la seconde fois dans ce psaume, l'histoire du peuple de Dieu depuis l'Égypte jusque dans le pays est passée en revue. Mais dans ce second récit, la ruine du peuple est passée sous silence. Du début à la fin, nous découvrons un exposé de ce que Dieu a fait pour le maintien de sa gloire en jugeant tous les ennemis et en délivrant son peuple. Il a fait partir les siens comme des brebis, les a menés comme un troupeau dans le désert, les a conduits sains et saufs, les a introduits dans les confins de sa sainte terre, a chassé de devant eux les nations et a divisé le pays entre les tribus d'Israël. Versets 56 à 64. Dieu rompt tous les liens extérieurs avec le peuple qu'il a abandonné. L'accomplissement par Dieu de ses propos en dépit de toute l'incrédulité et de la rébellion des siens aurait certainement dû amener le peuple à obéir à l'Éternel et à l'adorer lui seul. Hélas, de même qu'ils avaient tenté Dieu dans le désert et n'avaient pas gardé ses témoignages, les fils d'Israël abandonnent maintenant le sanctuaire, le lieu où Dieu habite, et établissent des hauts lieux. Ils se détournent de Dieu pour aller après des images taillées. Le résultat est solennel. Dieu brisa alors tout lien extérieur avec le peuple. Il méprisa fort Israël, abandonna son tabernacle, livra l'arche à la captivité et son peuple à l'épée. Versets 65 à 72. La bénédiction assurée à l'homme ruiné en vertu de la grâce souveraine. L'homme a été pleinement mis à l'épreuve par le témoignage de Dieu, ses œuvres puissantes, ses voies gouvernementales et sa grâce. Mais tout en vain. En voulant faire face lui-même à ses responsabilités, l'homme se ruine complètement et perd tout droit à la bénédiction. Aussi est-il clairement établi que s'il doit y avoir bénédiction pour l'homme, elle dépend de Dieu seul. La ruine totale de l'homme ouvre la voie à la manifestation de l'amour et de la puissance de Dieu en faveur de son peuple. Si une intervention divine s'avère nécessaire pour un peuple désespérément ruiné, cela ne peut pas être sur le fondement de ce que le peuple est pour Dieu, mais uniquement en vertu de ce que Dieu est pour ce peuple. Ainsi, dans la dernière partie de ce psaume, le Seigneur est présenté comme agissant de lui-même en grâce souveraine. Le Seigneur s'éveille comme un homme qui dort. L'image d'un homme puissant est employée pour exprimer l'énergie avec laquelle le Seigneur juge tous ses ennemis. De plus, il rejette Éphraïm et la force de la nature et agit selon son choix souverain. Dans sa souveraineté, il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion pour sanctuaire, et David pour paître son peuple. Sion devient ainsi le symbole de la grâce, et David, le type de Christ, celui par lequel toute grâce nous parvient. Le peuple est finalement introduit dans la bénédiction sur le fondement de la grâce, selon l'intégrité du cœur de Dieu et l'intelligence de ses mains. La voix de Dieu dans le lieu saint est ainsi manifestée par ses voix dans le monde. Voir Psaume 77, versets 13 et 19.